Gameblogueur, gameblogueuse, bienvenue dans le 220e podcast à la plume de Gameblog, bien évidemment. Reboot, remake, remasterisation, est-ce que le jeu vidéo tourne en rond? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans un remake d'un podcast qui date d'avril 2008.
Joli!
Ah, oh là là, bien joué!
C'était le podcast 52 et qui s'appelait les remakes.
Le phénomène remake.
Voilà, le phénomène remake. Ouais. Et bah justement, on va le refaire puisque il y a 4 ans de cela, on soulignait le fait qu'effectivement on sentait une tendance de fond dans le jeu vidéo. Et bah là, on est en plein dedans. Puisque si je vous dis Devil May Cry HD Collection, Silent Hill HD Collection, Metal Gear Solid HD Collection, ICO, Shadow of the Colossus,
God of War, Halo Anniversary.
Il y en a plein, Castlevania Lord of Shadow aussi, qui est une sorte de reboot. Tomb Raider, une reboot. Enfin bon. On est en plein dedans et donc pour cela, on va en débattre ensemble avec Mimic, l'homme qui vient de l'E3.
Trop bien sapé.
Ou pas. Il fait un remake.
Oui, bonjour. Oui, un remake de 3 2000, effectivement.
Superbe, magnifique, génial. Tout est prévu. Julo.
Je te fais un remake de quoi? Vas-y, sors un truc.
Pas chez le mec, par exemple.
Barnaby.
D'accord.
Qui est une sorte de remake de Sherlock Holmes, finalement.
Tout
de reboot.
Tout
raté
à fait.
De Sherlock Holmes. Pardon.
Ah, par contre, c'est vrai, reboot Sherlock, ça te défonce.
Ah, c'est génial. Ouais. Scandale in
Belgravia.
Belgravia, quel incroyable épisode. Raon, bien sûr. Et donc, Plumeau, notre italien trop bien ZF, qui est parmi nous, ça fait plaisir.
Bah oui. Tu peux nous faire le rire diabolique, s'il te plaît?
Non.
Oh, t'es pas gentil. Non,
pas ici.
Illuminati Dad. Donc, on va lancer ce podcast.
Ok.
Voilà, tout va bien, tout marche comme prévu. Et pour commencer bien un podcast, eh bien, on commence par une définition, messieurs, bien évidemment. Car nous avons trois
non
termes.
Non pas une, non pas deux, non pas trois.
Explicité, remake, remasterisation et reboot. Déjà, on va voir si on est d'accord sur ces termes, puisque c'est toujours un petit peu.
Plus il sera pas compliqué. D'accord, c'est sûr. Ah bon, t'es pas d'accord toi d'abord
hein? Il est jamais d'accord.
Non, si, moi c'est ça.
Tu vois, t'es pas d'accord, tu vois?
Non, non, mais ça va là.
Non, mais les frontières sont plus aussi évidentes qu'avant, quoi. Disons qu'il n'y a pas des coupures nettes entre les reboots et les remakes, par exemple.
Alors, une chose est sûre, c'est qu'on va pas foutre les HD collections dans les remakes, par exemple.
Voilà, c'est un abus de langage assez courant aujourd'hui. Les gens
qui, à partir de maintenant, est pénalisé de mort.
C'est ça.
Voilà. Voilà.
Bah, qui va s'en charger d'ailleurs, c'est toi?
Non, c'est Mimi qui a des plus grosses mains.
D'accord.
Très bien. Alors bon. Alors qu'est-ce qu'on appelle un remake, messieurs, dans le jeu vidéo?
Raon.
T'es sûr que tu veux commencer avec les remakes?
Oui.
Ok.
Il fait ce qu'il veut.
Oui,
c'est
ouais,
son
oui,
émission.
C'est le MC. Un remake, en fait, c'est reprendre un jeu donc, qui est déjà apparu, d'en garder vraiment que la substantifique moelle et le refaire avec les techniques d'aujourd'hui. Le remake de base, c'est celui qui va vraiment se pencher sur les aspects techniques du jeu, refaire un nouveau moteur, refaire ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire les textures si c'est un jeu en 3D, la modélisation des personnages, etc.
Le remettre au goût du jour, finalement.
Exactement, tout en conservant donc le cœur. Ça peut être.
Le remake au goût du jeu.
Ça peut être l'histoire, tout bêtement, le scénario, même s'il peut dévier un petit peu par rapport à l'original ou s'enrichir.
Ça sera intéressant, on va en parler dans quelques instants avec Plume, par exemple, sur un titre comme Silent Hill Shattered Memories,
qui est
un peu tangent entre remake et véritable réécriture.
Ouais. Évidemment, donc il peut y avoir des largesses sur un remake, un peu comme c'est le cas dans le cinéma. Il y a des films qui sont remakés et qui finalement s'éloignent un peu plus de l'original que ce qu'on pensait. Mais grosso modo, c'est vraiment un changement quand même relativement profond.
C'est une relecture d'une œuvre originale.
Oui, à tous les niveaux dans le jeu vidéo, donc très souvent techniquement pour commencer, et puis après aussi effectivement avec peut-être un gameplay plus affûté, quelques nouvelles mécaniques supplémentaires, etc. Des choses vraiment nouvelles ou modernisées.
Si on devait retenir quelques titres du coup véritable remake dans le jeu vidéo, on penserait forcément à Resident Evil qu'on appelle Rebirth sur GameCube, qui lui intégrait véritablement des pans de scénario en plus, une refonte visuelle intégrale. On pense aussi à toujours sur GameCube à Metal Gear Solid Twin Snakes aussi, avec ses excès
qui est un remake beaucoup plus léger quoi, parce que dans l'absolu le jeu c'est le même.
Gameplay reprend tout le gameplay de MGS2 finalement, et donc étoffe véritablement les possibilités par rapport
à. Il est vraiment très proche du remake de Resident Evil, justement.
Remake,
c'est un peu le même genre quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu PS1 qui est adapté sur GameCube avec des graphismes vraiment super améliorés, des petits trucs en plus, etc.
De gameplay,
un vrai remake et pur remake, c'est Commando Rearmed
donc, sur le Xbox Live,
voilà,
qui est génial.
Live Arcade, qui est exactement finalement le jeu NES avec même le même level design, etc. Mais avec
quelques
tout
trucs
refait
en plus aussi.
Voilà, le héros refait tout en 3D machin, etc.
Et alors Plume, on n'est pas d'accord tous les deux sur l'appellation remake finalement qu'on pourrait donner à Silent Hill Shattered Memories?
Pour le peu que j'ai joué à Shattered Memories, ma compréhension du truc c'était que en fait le personnage principal était on va dire interviewé par rapport à ses agissements dans le premier Silent Hill. Et pour moi, c'est plus
un follow-up, une suite.
Ouais, voilà.
C'est presque un reboot.
Non, pas un reboot, justement.
Parce qu'ils ont pas changé que ça. C'est-à-dire que la vision dans le jeu et tout.
Mais le jeu, enfin, c'est même plus un Silent Hill.
C'est des murs de glace. C'est des murs de glace à la place
de la brume.
De la brume. C'est qu'un gameplay basé sur la fuite. Il y a aucune action du joueur contre les monstres,
ouais,
etc.
Absolument.
Mais c'est là justement où on peut dire que c'est une vraie relecture. Et
mais pour moi, reboot,
mais
c'est une relecture.
Pour moi, c'est un vrai remake. Hein.
Ouais, pour moi, c'est. Un
et c'est surtout pas un reboot.
Cinématographique du terme justement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment les personnages, l'histoire générale avec des twists supplémentaires, mais c'est une vraie relecture d'un univers.
Bah ouais, mais une relecture qui est expliquée à moitié dans le jeu, si je me rappelle, parce que c'est sa mémoire à lui qui lui fait défaut et. Enfin bon, c'est comme ça que j'avais compris. Après, peut-être que je me suis.
Non, mais c'est clairement effectivement un jeu qui est tangent, sur lequel là on est.
Aussi,
Pour moi, ça peut être vraiment qu'un remake en tous les cas. Si on considère qu'il y a soit un remake, soit une remasterisation, soit un reboot.
Je pense qu'il rentre dans cette catégorie là. Mais bon, pour moi, il est vraiment à part et il est juste. Ouais, une suite du premier. Mais bon, voilà.
On va passer
à l'exploration du premier. Voilà.
On va passer vite en tout cas sur la définition beaucoup plus simple finalement de remasterisation,
oui.
Puisque là globalement il s'agit juste de remettre au goût du jour, enfin de lisser les textures.
Prends des vieux jeux, tu les reformates en 16:9, tu les mets en HD machin, c'est tout ce qui est HD collection qui en ce moment sortent à un rythme très régulier et soutenu chez Sony.
Et qui sont parfois un peu en tube à toi.
Oui parfois.
On va en revenir dessus dans le podcast, mais c'est quand même
assez léger.
Il n'y
a pas assez de travail
dessus. Voilà.
Ouais.
Et parfois même ça détériore la qualité intrinsèque comme on l'a vu avec les Silent Hill. On l'avait dit dans le podcast, ce qui est quand même
ouais,
assez dommage
oui.
Quand même, hein, quand même. Et puis il y a le terme reboot, donc définition.
Là, ça devient compliqué en fait.
Définition plus complexe, ouais.
Oui. Parce qu'en théorie, donc un reboot, c'est finalement on reprend juste une licence et on redémarre une nouvelle série, une nouvelle saga avec parfois
plus ou moins de fidélité, en fait à l'œuvre originale.
Avec en général plutôt une fidélité sur des choses. Conceptuel, c'est-à-dire qu'on fait peut-être le succès des séries précédentes, mais pas forcément des éléments très factuels. Alors, on va donner des exemples de reboot. Par exemple, Deus Ex Human Revolution, dans l'absolu, c'est un reboot de Deus Ex. C'est-à-dire que c'est exactement le même gameplay, etc. Bon, ça se passe avant, il y a une autre histoire, etc. Mais c'est une nouvelle série. Enfin, on espère que ce sera une série. Il y aura probablement Human Revolution.
Alors, je vois Plume froncer les sourcils.
Comment ça pourrait être considéré comme un reboot, puisque c'est les développeurs ont bien expliqué que ça se passait des années avant le premier.
Oui.
Bah donc c'est dans la même ligne,
c'est le même
continuum espace-temps.
C'est
donc.
Comme c'est à dire qu'effectivement c'est alors si tu le prends comme on le prend au cinéma ou dans les comics, c'est la même comment on appelle ça, la même continuité, voilà. Donc dans ces cas-là c'est pas un reboot. Mais
moi je le vois pas du tout comme un reboot, hein.
Est-ce que Castlevania Lords of Shadow par exemple, c'est un reboot.
Bah c'est pas forcément un reboot aussi, il est placé quelque part,
si.
Il est placé à l'origine.
Vous avez dit que ce serait beaucoup plus compliqué.
Non, pas du tout. Alors là, aucunement, l'histoire de Gabriel Belmont n'est absolument pas dans la ligne chronologique, non.
Mais si.
Non.
On peut pas.
Vous
on peut pas spoiler.
N'importe quoi,
non,
monsieur.
On peut pas spoiler la fin. On peut pas spoiler la fin. Mais Gabriel, c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire.
Non, mais allez demander à Igarashi, vous verrez, ça ne fait pas.
Mais
non, mais
Igarashi, je t'explique, il a la haine. Igarashi, il a la méga.
Non, mais même, c'est pas.
Il refuse que ce jeu soit compté dans la série, alors qu'il y est pleinement.
C'est un autre. Là, c'est pareil, c'est un autre continuum espace-temps.
Mais attendez.
Cela dit, je ne réfute pas.
Le premier, Belmont, c'est Léon Belmont et point.
Sauf que
c'est un peu compliqué sans spoiler.
Sauf que on peut pas sans spoiler.
Ah bah ouais, mais
c'est
une autre histoire, mais ça rien à mais c'est
si,
un...
si,
non,
si,
non,
si,
non.
Si.
Juste un point sur l'histoire de continuité et tout. Les reboots s'installent dans les séries. Tomb Raider, le prochain, est un reboot de la série.
Et pourtant,
ils s'installent totalement dans la continuité du jeu.
Mais non, les mecs, les gars, les reboots, c'est bien, on reprend les mêmes éléments et on les adapte à une autre façon. Je veux dire, c'est comme Battlestar Galactica ou c'est comme V qui ont été rebootés par les chaînes américaines.
Mais dans ce cas-là, par exemple, Tomb Raider.
Et on retrouve.
Tomb Raider n'est pas un reboot alors, le prochain.
Comment ?
Le prochain Tomb Raider n'est pas un reboot alors.
Bah, ils l'ont déclaré comme un reboot.
Ouais. Mais ça l'est. Donc, pas parce que c'est une préquelle.
Alors monsieur Plume, alors
normalement
non mais attends, je peux juste dire un truc.
Ils l'ont déclaré comme un reboot et parce que elle est pas censée s'être écrasée sa mère elle est censée l'avoir perdue dans un avion. Non, c'est pas elle est pas avec sa mère dans ce truc là.
Non.
Non. Bon bah alors non. Je suis confus.
Je vois pas pourquoi est-ce que tu veux absolument considérer que dès qu'il y a un lien dans la timeline avec la série de base, ça ne peut pas être un reboot.
Mais là,
tous les reboots qu'on connaît, il y a un moment où ils sont liés d'une manière ou d'une autre à l'original, parce que c'est normal.
Ah, mais
c'est bien le reboot d'une même série.
Bah, ils ont gardé
par exemple Bionic Commando, qui pour moi est un reboot. Est en fait
donc
la
pas le
suite
dont on parlait tout à l'heure,
la suite, ça se passe après les événements de Bionic Commando, c'est le même personnage, etc. Mais par contre, c'est un reboot parce qu'ils se sont dit, voilà, Bionic Commando, c'est quoi qui fait un Bionic Commando? C'est ci, c'est ça, etc. Et bon, on va prendre les éléments, on va les mélanger, on va en faire un truc vu de derrière, on va mettre le focus, au lieu de le mettre sur le platforming, on va mettre le focus sur les balades en grappin, sur les sensations, etc. Le reboot, c'est ça, c'est le moment où les créateurs ils vont plancher sur ce qui fait d'une série une série, prendre certains éléments, en rajouter d'autres, en enlever certains, etc. Faire un mélange et faire leur sauce, en fait. C'est ça pour moi.
Comme DMC, par exemple, le prochain DMC.
Et David May Cry, c'est un pur reboot. Et pourtant, tu vas voir que David May Cry, quelque part, il s'installe aussi dans la timeline.
Là, je sais pas encore.
Je crois que c'est une préquelle aussi. C'est une préquelle, tu confirmes ?
Mimi confirme.
Oui, c'est une préquelle.
Bah, il est plus jeune, mais est-ce que vraiment c'est le même Dante déjà ? C'est pas si clair.
Bah,
que ça,
on sait qu'il va devenir blond,
platine. Mais...
En tout cas, ils ont dit c'est Dante plus jeune, donc à partir de là, je veux dire, tu imagines bien que c'est le même Dante.
Non, mais il pourrait très bien.
Pour moi, un reboot, c'est
un concept. Très bien dire qu'on a repris Dante, le personnage, voilà, mais on a choisi d'en faire un nouveau Dante plus jeune, etc.
Exactement. Comme Batman.
Voilà, Batman, ou le prochain Spider-Man.
Est-ce que le temps est vraiment obligé de rentrer en ligne de compte ? Le truc avant, après,
non,
etc.
Moi, je pense qu'eux ont choisi de faire un personnage plus jeune, mais donc du coup, on a tendance à le rapporter à l'ancien personnage, puisqu'il est plus jeune dans une timeline, mais ça n'a rien à voir.
Mais je suis d'accord, mais alors dans ce cas-là, le fait que ce soit avant ou après, finalement, ça n'a pas d'importance. Oui.
En tout cas, je pense que les gens qui sont en train de nous écouter comprennent la complexité qu'il y a de la définition du reboot. Parce que
mais non, elle n'est pas complexe du tout, j'ai donné la bonne. Voilà, c'est tout.
Il y en a
pas. Non, mais en réalité, on peut quand même se demander si le reboot, c'est pas juste un terme marketing
un peu
pour
si sûrement
de séries qui tombent un peu dans l'oubli ou qui rament un peu.
On a tout repris à zéro, on va vous le refaire, le même truc qu'à l'époque en termes d'intensité, mais en fait ce sera complètement différent.
Et est-ce que finalement si on voulait filer un petit peu la comparaison, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de jeux comme par exemple dans les Final Fantasy qui sont des sortes de reboots constants de la même série.
Il n'y en a pas beaucoup, il y a vraiment
Final Fantasy, il y avait une légende qui disait que c'était tous les 1000 ans.
Tous les 1000 ans, ouais.
Après, non, voilà.
Tout à fait, mais ça, c'est,
mais
ça une fois
elle,
plus, c'est
elle
juste,
a été abandonnée à,
c'est juste l'histoire
années,
de la continuité, mais au-delà de ça, c'est on reprend on va dire l'essence même de la série,
épisode,
mais on bouleverse tout, on
ça
apporte
reste
de
du
nouvelles
RPG,
choses.
Zelda est un meilleur exemple pour moi. Mais c'est pareil,
même s'il existe une chronologie secrète,
il y a une timeline aussi
qui est en train de se révéler là, les derniers mois, elle apparaît comme ça devant tout le monde. C'est assez compliqué. On va revenir sur différents jeux, ceux qui nous ont véritablement marqué et ceux qu'on va vous demander d'éviter principalement. Mais on va se poser d'abord quelques questions de débat, à savoir par exemple, est-ce qu'on a véritablement besoin de ces jeux, les remasterisations, les remakes, les reboots, ou est-ce que finalement c'est pas une certaine manière mercantile de faire de l'argent en gardant toujours les mêmes séries,
c'est
en
pas
les
forcément
faisant
antinomique.
Renaître.
C'est pas forcément antinomique.
Ouais, ça peut être des bons jeux, oui, tout à fait.
Non, mais je veux dire, les mecs, enfin les éditeurs peuvent très bien vouloir faire de la thune et ça peut quand même servir aux joueurs.
Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ne pas, c'est prendre finalement.
Mais non,
moins
antinomique,
de
c'est pas compliqué, mimique.
Et repasser le ralenti, vous verrez qu'il y a un petit blanc au moment où il dit antinomique.
Oui, oui.
Verrez, voilà.
D'accord.
Non, mais c'était pas sur ça, c'est je me rappelais plus ce que j'avais dit avant.
c'est pas de.
Ouais, c'est vrai, mais non, mais ce que je veux dire, c'est finalement, c'est prendre moins de risques. C'est s'appuyer sur des séries qui ont marché à un moment et essayer de les remettre un peu au goût du jour.
En fait, le problème, c'est
pourquoi ne pas partir sur vraiment de la nouveauté, quoi.
Ouais, bah, le problème, c'est aussi finalement lié aux licences elles-mêmes. C'est-à-dire que les noms sont connus, sont devenus des marques à part entière. Mmh. Et à part Final Fantasy et quelques autres séries qui s'en sortent à en être au 15, 14, 17 ou 8000. Quand on vient à juste incrémenter le numéro à chaque épisode, les gens ont tendance à se détacher. Alors c'est peut-être aussi, et c'est pour ça que je pensais que le terme de reboot est finalement marketing, c'est de se dire, alors non, c'est pas vraiment une suite, on repense tout, on refait le truc, mais on appelle quand même ça Tomb Raider, mais on appelle quand même ça machin, etc. Donc de garder la marque.
Tu veux dire que c'est très commercial de
c'est quelque chose de rassurant, je trouve, pour les joueurs.
C'est avant d'appeler tout ça un reboot au lieu d'appeler ça machin truc numéro temps, voilà. Mais après le jeu qu'il y a derrière lui peut justement renaître de ce genre d'initiative complètement. C'est a priori ce qu'on attend de Tomb Raider notamment, enfin qui est très très attendu à la rédaction, parce que vraiment les développeurs ont décidé de se focaliser sur des trucs et, dans, et de transformer la série en, en quelque chose de nouveau, de neuf.
Ça a une valeur aussi de ramener des idées qui n'ont pas été connues par des joueurs il y a 20 ans et de les ramener et de les remettre au goût du jour. Donc je sais pas, il y a des super scénarios par exemple, je prends les MGS ou par exemple, c'est très très bien de les ramener.
Donc là pour
par
les remasterisations.
Voilà, exactement. Ça, pour ça, pour
ou
moi,
même
ça,
la réédition.
Ça,
hein.
Oui, ou la réédition, effectivement. Ouais. Mais le fait de le remettre un petit peu, entre guillemets, au goût du jour, que ce soit en lissant les textures ou en refaisant tous les graphismes, etc., ça a quand même une valeur de leg, j'ai envie de dire, enfin, tu veux, pour faire connaître.
De conservation du patrimoine.
Exactement, ouais. Ouais, donc, bien sûr. Ça, c'est intéressant.
Ça peut être une seconde vie aussi pour certains.
Oui,
des jeux qui n'ont pas très bien marché à leur sortie, comme Beyond Good and Evil, qui est sorti sur Xbox Live et PSN. Ça
dans sa version PC, hein, grosso modo.
Tout à fait.
C'est très bien d'ailleurs de faire des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui l'ont loupé en 2003, malheur à eux, et qui peuvent maintenant y jouer et qui peuvent découvrir que c'est un vrai chef-d'œuvre.
Mais c'est là que le distinguo est très important entre remasterisation, reboot et remake, parce qu'effectivement, techniquement, il y a un problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes certains jeux d'il y a 20 ans, qui sont pourtant des super jeux, il y a des yeux de joueurs qui peuvent pas supporter ces graphismes-là, quoi, parce qu'ils les ont jamais connus. Donc ça pose quand même aussi un problème, si tu veux.
Et ça pose aussi un autre problème, c'est qu'au-delà de l'intensité d'une aventure, du scénario,
d'un gameplay.
Bah, justement, le gameplay, parfois, a plus de difficultés à être remasterisé, c'est-à-dire une texture, bon, bah, tu la mets un peu plus lisse, un peu plus fine, etc. Par contre, les gameplays, généralement, sont pas retouchés. Et c'est là où on se rend compte qu'ils étaient un petit peu, enfin, en tout cas, qu'ils ont un peu vieilli.
Ah, mais bah, parfois, aussi, tu te rends compte de l'inverse aussi.
T'as des bonnes surprises aussi, mais plus rarement.
Parce que moi, par exemple, je pense à Metal Gear, qui est une série que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que là, sur la remasterisation, la collection, la HD Collection, on se rend compte quand même que le gameplay commence à être un petit peu, enfin, un peu daté, quoi.
Ah oui,
un peu rigide.
C'était abominable. Le 4, et pourtant le 4, qui n'est pas un exemple, a quand même vachement assoupli la plupart des mécaniques, ou même le fait de pouvoir s'accroupir pour marcher en marchant. Enfin, et ça, il n'y avait pas ça avant, et c'était ignoble.
Ce qui serait bien aussi, c'est d'adapter. Tu vois, moi j'ai eu Gears of War 3 il n'y a pas très longtemps en test, j'ai rejoint au 1 et au 2, qui sont quand même des très bons jeux, mais une fois que tu as joué au 3, passer au 1 en termes de gameplay, c'est hyper dur.
Il y a un vrai fossé. En une seule
génération. Surtout quand tu passes
sur le cover system, 3, surtout.
Voilà, exactement. Qui est nettement moins précis, nettement moins fluide, etc. Quoi. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est effectivement, par exemple, de faire un épisode 1, 2, 3, 4, sachant que le 1 est très bien, et puis adapter le gameplay du 4 en remake sur le remake du 1, pardon. Voilà. Ça, ce serait une bonne chose, par exemple. Il faudrait qu'ils adaptent les jouabilités.
Patch.
Oui, ou je sais pas, mais s'ils refont un jeu, tu vois, ils refont une version du premier, effectivement, s'ils reprennent la jouabilité du dernier épisode, ça peut être, à mon avis, que pour de bon. Quoi.
Mais après, il y a la conservation du patrimoine, pour moi, c'est très important aussi,
oui,
parce qu'il y a vraiment, ce qu'il disait est très juste. Et il y a des jeux, on a au cinéma, par exemple, où il y a du remake, où il y a du reboot, et toutes ces choses-là, globalement, c'est assez simple et assez facile pour n'importe quelle personne née dans les années 90. De regarder un film des années 60, même s'il a été remaké, dans sa version d'origine. Alors, bon, oui, il y aura des trucs qui auront vieilli, etc., mais c'est pas aussi perturbant que de jouer aujourd'hui un jeu qui était en 3D vectoriel, toute pourrave, avec un gros shading de merde, il y a 15 ans, par rapport à un écran HD aujourd'hui avec des putains de textures, des shaders, des machins, des bidules, quoi. C'est-à-dire que vraiment le fossé est quand même, spécifiquement au jeu vidéo, très difficile à surmonter.
C'est aussi parce qu'on a joué entre temps. Je pense qu'un mec qui n'a jamais joué de sa vie et tu lui colles le MGS 1 aujourd'hui dans les mains ou le Gears 1, ça lui posera évidemment aucun problème. Ça aussi.
Aucun problème, ça dépend. Parce qu'après, c'est quoi
surtout
ton truc avec
plus,
c'est quoi tous ces boutons
exemples. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, voilà, il y a aussi toute l'expérience qu'on a à magasiner. Effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a des gameplays qui sont nettement plus pertinents que ce qu'il y a eu il y a 10 ans.
On est confronté à des. Mais c'est comme dans les films, finalement, t'as des films avec des effets spéciaux qui ont très très mal vieilli.
Mais alors, justement, est-ce que la limite de la remasterisation n'est pas de faire oublier, de gommer un peu l'original, et c'est-à-dire que les originaux.
Ça, c'est George Lucas style.
Ah oui, non, mais c'est ça. On n'arrive plus, on les retrouve plus, et peut-être que pour. Sans aller pour les collectionneurs, etc., qui eux gardent les originaux, mais pour des gens qui voudraient retrouver véritablement le frisson, l'émotion
initiale,
ils
pense
que l'ont plus finalement, parce que c'est.
Ça
c'est
dépend
lycée,
comment c'est fait.
C'est
Prenons par exemple Halo Anniversary, il l'a fait très bien, c'est-à-dire en une pression d'un bouton, tu passes au rendu de l'époque.
Exactement, et je pense à des trucs comme Another World.
Island aussi.
Tout à fait, R-Type Dimensions aussi, qui est mortel aussi, tu passes tout le temps.
Mais ça, je trouve
c'est super.
Quand il lançait justement plein de. En fait, en l'occurrence, c'était plus des rééditions que des remasterisations de jeux sur le Xbox Live Arcade. Il y avait toujours cette option. Mm-hmm. Ou quasiment toujours. Tu pouvais revenir au truc d'époque pixelisé, machin.
Alors, c'est plus facile sur les jeux 2D.
Oui, évidemment.
bien sûr. Déjà, ne serait-ce que parce qu'un moteur 2D, tu peux garder la même hitbox même si tu redessines le sprite, quoi. Mais je viens de parler chinois pour beaucoup de personnes, je pense. Mais
bon, la zone de détection du personnage, on va
c'est
dire.
C'est ça.
Là,
c'est-à-dire que sur un jeu 2D, tu te contentes de redessiner. À l'époque, tu avais une résolution de, t'avais peut-être, je sais pas, 250 pixels pour faire un personnage avec 6 couleurs. Mmh. Aujourd'hui, tu peux en avoir beaucoup plus de l'un et l'autre. Ça n'empêche pas que la mécanique du jeu, elle, fondamentalement, n'a pas besoin de changer.
C'est un truc qu'ils ont fait sur Street Fighter 3, Star Strike Online, par exemple, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le live. Effectivement,
tu avais une simple pression aussi.
Pas d'une simple pression, tu passes dans un menu. Mais néanmoins, voilà, ça te permet de voir le jeu de différentes manières, effectivement.
Parce que moi,
il y a Hitbox, effectivement.
Ils avaient fait avant Street Fighter 2 HD.
Oui,
c'est exactement le même jeu, c'est le même moteur de jeu.
Sauf que tout redessiné, par contre.
Voilà, mais tout redessiné visuellement.
Et ça avait une super gueule.
Bon, après, je sais pas si au niveau des frame data, etc., c'est exactement le même.
J'ai pas assez joué au jeu, là,
Mais bon, grosso modo, c'est la volonté, en tous les cas.
Parce que moi, je trouve ça passionnant, justement. T'es dans une séquence, je pense par exemple à Another World sur iOS, même si la jouabilité au tactile, c'est pas ça. Moi, ça m'a arraché les cheveux.
Quel jeu pour moi, putain.
Mais voilà, en passant, tu vois le redesign, tu fais putain, c'est pas mal et tout. Mais et du coup, t'oublies, t'as complètement oublié.
Exactement.
Et là, tu fais, ça ressemblait à quoi ? Ah ouais, quand même. Et là,
et
tu vois
exactement
l'évolution.
C'est-à-dire que
il y a ce petit
quand il l'a refait, il l'a refait tellement avec la philosophie de l'époque, etc., que quand j'ai commencé à jouer, parce que de base, le jeu, il est configuré en version rehaussée. Quand j'ai commencé à jouer, c'était exactement comme ça dans mon souvenir. Pour moi, je voyais pas la différence, j'avais l'impression que c'était le même jeu.
La nostalgie,
il a fallu que je revienne à l'ancienne version pour me dire ah oui, quand même, c'était moins beau, c'était plus pixelisé et tout. Mais cette option était géniale pour ça, quoi. Mais après, tu peux pas non plus toujours le faire, des fois c'est compliqué.
Forcément. Il y a aussi quelque chose, une idée un peu reçue par tout le monde qui est que c'est sur cette génération que ça, il y a des remakes, avant, on ne faisait pas ça dans le jeu vidéo. Mais en fait, si, il y en avait déjà. Sur Super Nintendo, par exemple, avec Super Mario All-Stars, c'était un vrai remake, une compilation, mais à la fois, ils avaient refait l'intégralité des graphismes. Moi, je me rappelle, c'était un jeu... on l'a pas cité, d'ailleurs, dans le podcast, me semble, des 20 ans de la Super Nintendo.
Je l'avais sur ma liste, mais on l'a pas
parce que c'est finalement une compilation, mais elle était géniale.
Ah, mais une compilation dont un Lost Levels qu'on n'avait jamais eu en Europe.
C'est vrai.
Qui était bien et qui était vachement dur, en plus.
Mmh. Carrément. Et puis, il y a aussi des remakes cachés.
Oui, ou qui se... Vraiment. Là, on a eu un exemple très récent qui est Legend of Grimrock, qui est sorti la semaine dernière. Et en fait, quand tu regardes le jeu, c'est Dungeon Master. Voilà, sauf qu'ils n'ont pas la licence, c'est pas l'équipe originale, c'est juste des gros fans du jeu original qui se sont réunis et qui ont fait leur développement indé et qui nous ressortent finalement le même jeu.
Je suis désolé, j'ai pas suivi, c'est quoi ce jeu ? Là, ça m'intéresse énormément.
Dungeon Master ?
Non, Dungeon Master, c'est bon, ça je connais très bien.
D'accord. Legend of Grimrock.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Dungeon Master.
Ah ouais, mais c'est sur quelle plateforme là ?
PC.
Enfin,
c'est Dungeon Master. Après, c'est plus fluide quand t'avances dans le donjon, t'as une animation, tu vois les murs défiler et tout, tu vois. Mais c'est exactement le même gameplay. Tu prends.
T'as l'œil qui brille.
T'as ton. Mais oui, c'est Dungeon Master, c'était fantastique. Tu as ton équipe de 4 héros, tu rencontres des Strum, tu résous des énigmes. C'est exactement le même truc. C'est le vrai dungeon crawler de l'époque.
Ouais, je m'excuse pour la parenthèse, j'ai pas trop suivi ces derniers temps. Mais voilà.
Il y en a d'autres.
Et quelque part, donc effectivement, ça n'est évidemment pas un remake Dungeon Master. C'est pas les mêmes donjons, c'est pas les mêmes Strum. Par contre, le système de sort Tillage est plus ou moins le même, je crois, mais je suis pas sûr, j'ai malheureusement pas encore eu le temps d'y jouer, finalement c'est un remake non avoué quelque part, un hommage.
Quelle est la limite entre le remake non avoué caché et le plagiat?
Sisters et Mario,
par exemple.
Voilà.
Vous avez un épisode entier de les histoires du jeu vidéo d'AHL qui revient là-dessus, justement, où on voit un petit peu tous ces jeux qui se sont inspirés, alors qu'ils sont sous forme d'hommage ou autre chose, ou carrément des sacrés plagiat. Ouais. Mais c'est vrai que la limite est ténue quand même.
Ouais, bon, dans le cas de Grimrock, on peut pas vraiment parler de plagiat parce qu'il n'y aura jamais de Dungeon Master ou Watmill pour l'instant. Je sais même pas si la licence appartient encore à quelqu'un, si c'est pas perdu dans les limbes de l'administration. C'est tellement vieux. FTL n'existe plus, le studio qui a développé Dungeon Master n'existe plus depuis un milliard d'années. Donc tu te dis vraiment, c'est juste des gens qui ont comme nous ce souvenir de ce jeu-là et qui se sont dit oh, c'est dommage que personne n'en fasse, faisons-en.
Mais ils ont bien raison.
Ils ont bien raison. Mais alors après, effectivement, je veux dire, dans le jeu vidéo, le plagiat, on connaît quoi.
Bah oui, carrément. Parce que reprendre un gameplay et l'améliorer ou le peaufiner, c'est pas forcément. Enfin, il y a des trucs qui marchent à tous les coups, quoi, on le voit. Donc, je sais pas, les QTE par exemple, ou j'en sais rien, ou t'as des BTA aussi où tu retrouves plein de choses en commun.
Les quoi ?
Des BTA, des Beats and All. Ah. Et c'est pas du vol ou. Il me semble pas, quoi, ni du plagiat, quoi. Donc,
Non, mais c'est vrai.
Je pense plus dans la forme que là, par contre, il y a beaucoup plus des trucs beaucoup plus tendancieux, quoi. Je pense, j'ai pas d'exemple en tête là, mais je veux dire, effectivement, je sais pas si tu prends une image avec, je sais pas, une porte, une entrée, et puis telle ou telle se matue à cet endroit-là, puis tu revois la même chose dans un jeu. Bon, dans un autre jeu, on peut effectivement la parler de ça, je pense. Mais voilà, je veux dire, c'est plus flagrant, je pense, visuellement que sur un gameplay, quoi.
Certes. Et pourtant, dès que quelqu'un a une bonne idée, on parlait de Gears of War tout à l'heure.
Le gameplay, on l'envoie venir à l'appel. Hein.
Cover system, bam, il n'y a pas un TPS aujourd'hui qui n'utilise pas un cover system similaire.
Mais c'est dans l'intérêt du joueur, là, pour le coup. C'est un des systèmes qui fonctionne le mieux.
C'est une évolution.
Voilà. Alors que graphiquement, là, par contre, c'est vraiment c'est du plagiat. Quoi.
Mais c'est un peu comme au cinéma aussi. Ça arrive souvent, genre quand Matrix est sorti, comme de par hasard, tous les jeux d'action.
Bullet time.
Exactement, à gogo. Voilà, après c'est des évolutions, il y a des éléments, il y a certaines œuvres qui sont marquantes.
C'est des tendances, c'est des...
Ouais, mais c'est aussi voilà. Des progrès, des trucs qui sont marquants et qui font que t'as l'impression, enfin, c'est un peu comme le scrolling sur la molette de la souris, c'est-à-dire que tu savais pas comment ce que tu faisais pour t'en passer avant, quoi. Ça intègre tellement vite la grammaire d'un game design ou bien d'un film d'action, que ça devient naturel de l'utiliser, quoi.
Si tu parlais de Matrix, là, je veux dire, tout le monde attend Max Payne 3, enfin, tu vois, voilà, c'est pas... Voilà, ça prouve bien qu'il y a une rétente là-dessus, quoi. Et que c'est dans l'intérêt du genre.
Et bien justement, dans quelques instants, on va vous parler un petit peu des épisodes, des jeux en tout cas qu'on qualifierait de bons remakes, de bonnes remasterisations ou de bons reboots. Mais juste avant cela, un petit point quand même aussi sur les démakes. Parce que ça, c'est une autre catégorie. Oui, hein.
Alors c'est le phénomène inverse, c'est pas les remakes.
Alors c'est simple, en fait, dans le jeu vidéo, un remake, c'est un vieux jeu qu'on met sur une plateforme plus moderne, sur une nouvelle machine. Et les démakes, c'est des jeux actuels. Qu'on met en mode 8 bits, etc. Il y en a plein d'exemples. Hein. Il y a Portal, il y a Final Fantasy, il y a Team Fortress, il y a Halo 2006, voilà. 2600.
Sur Atari 2600.
Voilà.
Il y a des Megaman aussi qui ont été faits, je crois que c'est les récents Megaman qui ont été faits en format 8 bits.
Ouais. Ouais. Oui, mais alors ça, c'est pas.
C'est une forme de D-Mac.
Comme ça.
C'est des suites. Non, le 9 et le 10, c'est des suites. Voilà, ils ont gardé exactement la même structure.
Ils ont pas repris un jeu récent pour
le faire.
Fait le 7 et le 8 qui
sont le 8 et le 9. Non, 9 et le 10.
Le 9 c'est la suite qui a été faite par Capcom. Mais t'as le 7 et le 8.
Attends, le 12 ? Non.
Le 7 et le 8 ont été refaits sur NES. Alors qu'ils sont sortis sur Super NES. Si je dis pas de bêtises.
Là, je ne sais pas.
Je pense
que les gens
parleront. J'avais réussi à me perdre là.
Ouais.
Mais on le voit beaucoup. Alors, il y a des vrais jeux entre guillemets jouables, et puis il y en a beaucoup aussi.
Ouais, c'est souvent des trucs
sur YouTube, etc.
Des
petits extraits où ils refont les choses à la sauce 8 bits. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça montre vraiment qu'aujourd'hui, on a un double courant.
Mais non, voilà, c'est un truc que je m'explique mal parce que je me dis comment est-ce qu'on fait pour jouer à ça en fait. C'est-à-dire, je veux dire, je vais me jouer à Halo et machin, je dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est que moi je sais que
j'aurais pas forcément... c'est quand même un exemple extrême. Hein.
Voilà, mais est-ce que j'aurais l'envie d'y aller?
Pas
du tout, quoi.
Hein?
Il a pas été fait par recodé par Ed Freeze?
Non, c'est pas Ed Freeze, c'était un des mecs de la team originale, ouais. Je crois, de Bungie, il me semble qu'il l'a
il
fait.
Il me semble,
c'est trop bon internet, Google et tout. Donc je vous confirme que Rockman 7 FC, c'est un projet de D-Mec de Rockman 7 qui était sorti sur 16 bits, sur 8 bits. Par les gens qui, même déjà à cette époque-là, sur 16 bits, trouvaient que c'était trop moderne.
Ah, d'accord.
C'est trop moderne.
Oh putain, il y a trop de couleurs là, c'est trop beau là. Oh putain, non.
Ouais, et puis alors, après, il y a aussi un truc que moi personnellement je ne savais pas, mais en Chine et à Hong Kong, qui à l'époque était encore sous
domination britannique,
anglaise, dans les années 90, bien sûr, en fait, comme il y avait le marché noir, etc., et qu'il n'y avait pas l'autorisation d'importer les jeux, on va dire actuels, les Final Fantasy VII par exemple, ou les Tekken, et ben ils les refaisaient, mais sur NES.
Oui.
C'est quand même complètement ouf. C'est-à-dire qu'ils refaisaient les jeux, enfin, mais de manière pas officielle. Mais
juste parce que c'était un nom connu et voilà.
Exactement, puis ils se le vendaient au marché noir. Etc.
Ah, ils sont forts ces Chinois, putain.
C'est assez fou, quoi.
Il y avait un trafic de fou là-bas. Moi, j'y suis allé justement.
Oui, il y avait des trafics d'organes aussi.
Quand j'avais, voilà. Alors, pas, j'y suis pas allé pour ça, enfin, pas que pour ça. Mais vers 13-14 ans, j'y étais effectivement et j'ai ramené des copieurs à l'appel, des machins, des trucs comme ça. Effectivement, il y avait des versions de jeux. Tu sais quoi? J'en ai encore un copieur Super NES. Je la ramènerai à un podcasteur pour que les mecs se rappellent.
Je le toucherai pas.
C'est collecteur.
C'est le mal.
Ouais, c'est ça.
C'était les qui copiait les cartouches sur des qui dumpait les cartouches sur des disquettes,
sur des disquettes directement.
C'était
exactement.
Magicom ou une Wellcard,
je me rappelle plus du truc. Ouais. C'est un système, ça s'appelait Super Disque, mais je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Ah, je suis en train de déménager en ce moment.
Non, c'est nul, pardon.
Ouais, c'est pas
mal,
bien. Pardon.
Oh là là, bouh.
C'est mal, bouh. Enfin voilà, mais disons par contre des versions effectivement de grands hits dans des trucs un peu différents, un peu bizarres. Je m'en rappelle de ça dans les magasins.
Alors messieurs, on va faire une petite
pause clap.
Un petit point sur les jeux non, vraiment incontournables de chacune de ces catégories là. Quelles seraient pour vous les remasterisations véritablement à ne pas rater, celles qui méritent véritablement le coup, et comme ça histoire de mettre un petit warning sur les autres.
Alors moi je dirais, je commencerai par Shadow of the Colossus.
Donc les sorties, Shadow of the Colossus,
voilà,
HD Collection.
Voilà. Surtout pour Shadow of the Colossus d'argent. En fait, parce que ICO, le remake d'ICO n'a aucun intérêt pour moi. Enfin je veux dire, ICO l'original est parfait. Il y a pas, il a très bien vieilli, etc. Bon c'est toujours bien de l'avoir en HD machin.
Mais c'est difficile d'y jouer en fait. De l'avoir physiquement, de pouvoir le à
ouais si t'as pas de console rétro compatible effectivement. Par contre Shadow of the Colossus à l'époque il mettait vraiment les PS2 à mal, et dans sa version donc HDifiée remasterisée
ça rame encore un peu quand même
parfois, mais c'est clairement jouable, beaucoup plus jouable qu'à l'époque, et du coup ça permet de profiter d'un titre qui est quand même très intéressant. Je sais que toi c'est pas ton préféré de la team, loin de là.
Je trouve pas mauvais mais je le trouve vraiment overhypé.
Ouais, bon moi je surkiffe Julo aussi je crois, et vraiment ça fait plaisir de pouvoir y jouer dans
moi,
cette
moi je condition. Le trouve mieux qu'Ico, voilà.
Le seul truc c'est qu'on on reste quand même toujours, et c'est valable je pense pour
au
toutes les HD collections. on reste soumis à il y a des défauts qu'on voyait pas à l'époque parce que c'était en SD, parce que c'était plus flou à l'écran, etc., et qui rejaillissent de ces rééditions en HD. Je vais bientôt finir donc reviens. Et dans Shadow of the Colossus par exemple tu vois vraiment que le décor il est taillé à la serpe et tout, mais ça va encore, alors que dans un truc comme la HD collection de Silent Hill, ça tourne au cauchemar en fait. Mais le pas bon.
Non, clairement le pas bon. Mais
Metal Gear, moi. Pour moi, ce serait Metal Gear. Je pense que c'est un incontournable. Hein. Voilà, donc Metal Gear.
Tu veux pas aller me chercher la bouteille d'eau?
Au revoir.
Alors malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'y jouer très longtemps, mais j'ai lu ce que t'en as dit, et donc ça avait l'air plutôt bien. Donc
rien
que pour moi, ne serait-ce que pour le scénar, le gameplay, etc., que moi je trouve encore extraordinaire.
Bonjour.
Donc bonjour Julien C. Et donc je trouve ça extraordinaire. Si ça n'a pas été fait, pour moi c'est faut aller le faire, quoi. Voilà, la question se pose pas pour moi.
Moi justement, voilà, ça m'est revenu.
Bonjour Julien C.
Je trouve que quasiment toutes ces remasterisations, quand même, globalement, j'ai l'impression qu'on pourrait en attendre plus. C'est-à-dire que rame toujours un petit peu à un moment ou à un autre, et on se dit quand même c'est des machines, que ce soit la Xbox 360 ou la PS3, qui sont infiniment plus puissantes quand même que
les
machines.
Mais il y a une raison à ça, monsieur Chiez.
Qu'est-ce qui se passe?
Ils rééditent ça dans l'espoir de faire un peu d'argent quand même.
Oui, ça, c'est.
Donc ils en dépensent pas trop non plus.
C'est pas vrai. Et c'est
si.
Donc ça.
Et si, et voilà. Et comme ils veulent pas trop en dépenser non plus, ils réécrivent pas tous les moteurs, ils réoptimisent pas tout ce qui était écrit à l'époque pour une machine et des puces différentes de celles d'aujourd'hui.
Et
donc
ils se cachent derrière le fait qu'ils le vendent 30€ au lieu de 60. Mais en même temps, comme tu le disais, c'est décevant à chaque fois. Moi, c'est pour ça que quand tu poses la question, lesquels conseillerez-vous, etc., moi, en fait, il y en a aucun, je crois. Il y en a aucun qui me vient à l'esprit. Et même ICO et Shadow of the Colossus. Hein.
Bon, bah, il y aura chez moi HD bientôt, non?
Ouais, mais alors, oui, je vais dire aux gens de l'acheter par paquet de 13, etc. Mais
en plus, moi, je trouve que par rapport au cinéma, qui est coutumier des remasterisations HD, Blu-ray, machin, blablabla, etc.
Enfin, y a le Royaume 3D maintenant.
Non, mais voilà, mais il y a toujours des bonus. T'as le making of de comment on l'a remasterisé.
Effectivement.
Des bonus qu'on n'avait pas pu vous montrer la première fois, parce qu'à l'époque c'était en VHS et maintenant c'est machin.
Mais là, dans Silent Hill,
il n'y a rien.
Dans Silent Hill, t'as vu des nouvelles voix, par exemple.
Oui.
Mais c'est pas terrible.
Mais il n'y a aucun. Ouais,
il n'y a pas de valeur ajoutée. Ouais.
Mais non, c'est ça, c'est vraiment, on te file le jeu.
Tu as des exceptions.
Dans Devil May Cry HD, ils ont mis quelques images et quelques musiques, t'exagères quand même.
Ouais, ça.
Dans Ico et Shadow of the Colossus, t'as quelques vidéos à la con.
Je trouve.
Mais dans la page en partie, mais c'est, après il y a même des trucs que moi je trouve vraiment clairement abusant. On va encore dire que c'est un détail, mais quand t'as une collection de jeux, donc où t'as 3 ou 4 épisodes d'une série, et qu'une fois que t'en as lancé un, tu ne peux pas revenir au menu pour aller dans un autre, je trouve ça aberrant. C'est à dire qu'il faut revenir au menu de la console et relancer une fois le jeu pour pouvoir changer la sélection du jeu que tu veux jouer aujourd'hui. C'est dingue.
Dans Metal Gear, qui propose alors qui s'appelle la HD Collection, mais quand même qui oublie quelque part de mettre MGS1, même s'il est sur
le PSN,
mais pour les gens qui ont une Xbox 360, bah ils l'ont pas, tout simplement, alors que c'est la collection des Metal Gear Solid. Alors bon,
non, mais il y a aucun effort.
L'épisode original, c'est quand même un peu étrange, et effectivement il y a que l'épisode Peace Walker sur lequel on peut revenir au menu. Tous les autres, c'est reset, enfin c'est revenir au menu.
Il doit y avoir une raison technique
de la console,
à ça, je pense.
Mais quand même, c'est fin.
Mais c'est parce qu'il doit y avoir une couche d'émulation, justement, ce qui fait qu'il y a quand même encore des ralentissements, justement, et qui empêche probablement quelque chose. J'en sais rien, techniquement là je m'avance, mais
au-delà
mais bon, si vraiment ils le voulaient,
il pourrait consacrer un minimum de ressources à rendre toute l'expérience un peu plus confortable, un peu plus sympa.
Ce qui est vraiment pas le cas, tu vois, le quand tu passes dans le menu de base en fait de ton HD collection. Enfin, par exemple pour des Minecraft, je pensais à ça. T'as le logo du 1, le logo du 2, le logo du 3 qui sont un peu dégueulasses. L'image est pas clean, etc. Enfin, tu sens que ça a été posé sur la galette vite fait. Voilà, c'est fait et puis on lance quoi. Et c'est vrai que c'est dommage parce que t'achètes une collection, t'as l'impression d'acheter un truc de presque de luxe, tu vois, te dire avec tout dedans, et puis tu te retrouves avec un truc un peu crado quoi. Donc je comprends la déception dont tu parles.
Mais ne vous affolez pas. Dans quelques années, voilà, ils nous la referont. Oui. Lucas Style.
Quand on sera là dans 15 ans, ça pose pas de soucis.
À noter que c'est, si je dis pas de bêtises, quasiment jamais les développeurs originaux qui les font. C'est toujours, et de plus en plus, une boîte en plus.
Oui. C'est, mais il y a des boîtes qui se sont créées tout autour de ça.
Qui fait vraiment quasiment tous les remakes, en tout cas sur PS3, et ils les font tous. Hein. Les Metal Gear, les ICO, les God of War. C'est assez impressionnant.
Il y a des jeux qu'on pourra peut-être jamais remaker parce que les sources sont perdues. Ouais. Je sais pas. Enfin, remasterisé, je veux dire, pas remake, mais
c'est pour ça que pour la conservation du patrimoine, machin, etc. Moi, je préfère nettement en fait les initiatives de juste mettre les jeux émulés de l'époque sur la Virtual Console, sur le PSN, etc. Quoi. Ouais, c'est-à-dire, moi, à la limite, je préfère ça comme attitude. Ouais. C'est pas vendu cher du tout. Tu peux le mettre dans ta PSP ou dans ta PS Vita si t'as envie. Ça offre plein de possibilités aussi. Oui. Bah si, non mais là je sais qu'on est dans un podcast remake, etc. Mais je dis, moi je n'aime pas ces...
Toi tu préfères juste les rééditions.
Ces remasterisations HD, parce qu'en fait on se fout de notre gueule, on doit la racheter, etc. Alors que là, pour un tout petit prix, bah tu peux rejouer MGS1 si t'as envie sur ta PSP.
Mais alors c'est d'autant plus dingue qu'en matière d'émulation...
Et la Virtual Console c'est très bien pour ça aussi, parce que t'as tout le catalogue Nintendo et tout ça, enfin pas tout, mais...
Et donc
petit à petit quand même, ça
en espérant que tu puisses les garder quand t'auras ta Wii U.
Exactement, mais à mon avis oui, parce que sinon c'est... Non, non, mais là c'est levé de bouclier.
Et donc c'est encore plus dingue parce que... En matière d'émulation, tu peux reprendre exactement donc les jeux de l'époque et upscaler entre guillemets, donc les adapter vraiment aux écrans d'aujourd'hui et même lisser des textures, les rendre HD et faire finalement une grosse partie du travail qui est quand même fourni sur ces HD collections par voie d'émulation. Au moment où tu fais tourner le jeu, c'est possible, ça existe. Il y a des tas d'émulateurs qui te font tourner des jeux PS1.
Ça ramène des bugs aussi, c'est ça le problème.
Oui, et bah, oui, mais ça, quoi qu'il arrive, c'est inéluctable. Tous les émulateurs doivent s'adapter au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux jeux qui sont adaptés à être émulés, etc. Parce que c'est compliqué d'émuler. Mais en tous les cas, c'est possible. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de consacrer vraiment une collection à un disque, un machin, pour avoir un résultat quasiment similaire. C'est les premières PS3, merde, mais quand tu regardes les jeux PS2 que tu fais tourner dessus, bah ça upscale tous les jeux naturellement. Voilà, il y a pas de, après, ils sont quasiment HD quoi.
Après, oui, mais après ça les laisse en 4/3. C'est-à-dire que l'un des
pas forcément toujours.
Mais ça t'invente pas de l'image sur les bords. Je veux dire, ça les passe pas en 16:9.
Tu grossis en fait, oui, tu coupes.
Mais c'est vrai que ça c'est un confort aussi de jeu aujourd'hui. La plupart des gens sont désormais équipés en écran 16:9. Et c'est vrai que
la question c'est de savoir si c'est un confort qui vaut 30€.
C'est vrai. Mais après souvent il y a plusieurs jeux. Mais par exemple pour avoir revu Soul Calibur sur Dreamcast, j'ai été bluffé. Techniquement, il a quasiment pas vieilli.
Tu revois quasiment n'importe quel jeu sur Dreamcast. Shenmue, on l'a déjà dit mille fois. C'est vrai que c'est impressionnant. Et tu revois la démo des visages, t'hallucines sur Shenmue. Mais Jet Set Radio, Soul Cal, donc, qui est impressionnant.
Attends, je finis juste. C'est, techniquement, effectivement, je trouve ça a vraiment pas vieilli. Par contre, il y a un truc qui te choque. C'est les 4/3. C'est-à-dire que sur le Calibur, en fait, les personnages, ils sont mais à 1 mètre l'un de l'autre. ils sont collés les uns les autres, quoi. Et ça, justement, ces remasterisations apportant compatibilité, ils ont revu au niveau de l'image. Bah, là, c'est le côté immersif qui utilise véritablement les écrans 16:9, quoi. C'est, à mon sens, presque quasiment le truc le plus agréable quand j'en découvre ces jeux.
Et d'ailleurs, juste en parlant de la Dreamcast et des remakes et des remasterisations, il y a eu également des Dreamcast Collection. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les essayer. C'est un scandale. Crazy Taxi, ils ont changé les musiques.
Oui.
C'est-à-dire que tu joues à Crazy Taxi sans Offspring. Ouais. Donc ça n'a aucun sens.
C'est l'hérésie.
Bah c'est, non, mais non, mais c'est
comme un Street Fighter sans plume.
Ça doit être une question de licence, c'est tout. C'est les droits.
Oui, mais voilà.
C'est
mais donc, non, moi je n'y joue pas, c'est tout.
Ouais.
Et
merde, alors rendez-moi mon Offspring.
Mais question, ils le disent ou pas? Ils préviennent?
Non, ils préviennent pas, on a changé les musiques.
Bah là, c'est scandaleux.
Voilà. Mais nous, sur Gameblog, on prévient. Oui, on dit, attention, ils ont changé la musique.
C'est comme si t'avais un film, puis tout d'un coup, ils changent l'acteur pendant 3 scènes, etc. Puis ils te disent pas.
Ah ouais, comme Star Wars.
Comme dans Star Wars.
Avec la voix qui
Lucas
change.
Crève.
Arrête, c'est
grave. Il a apporté quand même tant de choses.
Oui, mais les retirer bien les unes après les autres.
Et pire du pire, Space Channel 5, où ils ont mis le mode 16:9, je crois, partout, sauf dans les cinématiques qui sont toutes. toute pixelisée, ah, moche, c'est, dégueu.
C'est le problème des cinématiques, justement. C'est que les cinématiques, ils ont pas les sources. Enfin, ouais, la source, c'est la source. Ils vont pas tout re... machin. Dans Silent Hill 2, en l'occurrence, c'est pareil. Les cinématiques sont magnifiques, mais
tu peux retravailler
c'est le problème.
Les cinématiques, hein. Tu
peux. Non, c'est quand c'est non ils leur font les sources. Il faut les sources CG d'origine, re-rendre chaque image avec la résolution d'aujourd'hui.
Quand c'est de la cutscene temps réel, oui, parce que c'est les polygones, tu les améliores. Mais quand c'est de la CG, non.
Sauf si t'as gardé les sources.
D'accord, mais par la magie des outils d'aujourd'hui, tu peux pas améliorer une cinématique.
C'est pas comme dans Hollywood Night où tu zoomes sur une plaque d'immatriculation à 4 km et puis plus tu zoomes, oh, elle devient de plus en plus fine. Génial, on enlève les pixels.
C'est vrai, parce qu'à l'arrivée, c'est juste du bitmap, quoi. C'est des pixels. Et les mecs, ils ont réceptionné eux-mêmes, donc à l'époque, un fichier vidéo qui a été livré pour être intégré dans le jeu. Et c'est toujours ce fichier-là, quoi.
Et
donc
probablement calculé avec les résolutions de l'époque en plus.
C'est ça, justement. Ouais. Et alors maintenant, évidemment, les gens, ils commencent à faire les choses un peu intelligemment. Et c'est pour ça, notamment, par exemple, que Ico et Shadow s'en sortent finalement assez bien. C'est que les sources de l'époque étaient déjà dans des résolutions supérieures à celles des rendus.
Ah bon
oui. C'est-à-dire qu'ils ont. Mais ça, c'est les malades de la team Ico. Hein. Là, c'est pareil pour.
Oui, c'est ça. Là, ils sont.
Quand tu vois des screenshots
de
soi-disant PS3
le faire pour la PS7 en fait. C'est pour ça que le jeu est un peu en retard.
Tu vois les screenshots
déjà
qui rentrent pas sur PS3, il est déjà en HD 4K.
Les screenshots officiels qui te balancent, c'est 8000 pixels par c'est des résolutions que jamais une PS3 l'affiche.
C'est la Orbis quoi.
C'est ça.
Mais s'il la faisait déjà pour la PS3, avant de le faire pour la Orbis.
Mais enfin voilà, les gens se montrent un petit peu plus prévoyants quand même au fur et à mesure.
On parlait de remasterisation des jeux.
Oui. Arrêtez de faire l'amour du regard là. Comme
mais
ça,
si on sait, on sait.
Pas que du regard, hein, de toute façon. Donc c'était quoi? C'était les jeux qu'on aimait bien, qui ont été remasterisés, c'est ça?
Oui.
Bah moi j'en ai un qui est sorti sur Xbox première du nom. C'était Conquer.
Bad Fur Day.
Ouais. Bah ouais, bah j'aimais bien le remake. Il a été vachement bien. Enfin la remasterisation a été vachement bien faite. Le jeu était encore un peu dur et un peu relou sur certains détails.
C'est vrai,
mais
c'était toujours aussi drôle. Remasterisation,
ah oui, non, mais
c'est vachement plus que celles d'aujourd'hui qui sont juste des lissages de textures.
Ah oui,
là, ils ont refait les modèles.
Ah, c'était monstrueux.
Est-ce que c'est pas un remake presque?
Non, parce que il y avait rien de neuf. Hein,
ouais. C'était vraiment la même trame.
C'était les mêmes niveaux, les mêmes vannes et tout.
Ouais, absolument.
T'avais quand même du multi online qui était juste faramineux, quoi. C'était vraiment super bien. C'était déjà bien en local.
Faire pipi dessus dans le multi ou pas, je me souviens plus.
Alors écoute, c'est pas une pratique que je fais assez souvent, donc je peux pas très bon, je m'en rappelle pas. Voilà, mais je me rappelle qu'on pouvait sniper.
Tu veux
et putain, ça envoyait. Hein. Non, d'accord. Franchement, c'était vraiment très très bien. Online.
Mais là, ça c'est quand même, quand ils pensent finalement,
plus, hein, quand même.
Un truc de ouf, c'est-à-dire que les gens qui l'ont pas fait à l'époque sur N64 se retrouvent à le faire sur Xbox après. C'était surréaliste.
Bah ouais,
c'est
pour
quand même
pour un rendu.
S'il y a bien un jeu dans ma vie que je conseillerais, c'est bien celui-là, parce qu'il est vraiment extraordinaire.
Ah oui.
Donc pour Plume, c'est Conquer.
Ouais, il y a aussi Symphony of the Night en un peu plus en meilleure résolution qui est disponible en téléchargement. Voilà, c'est tout.
D'accord. Raon, dans les remasterisations que tu conseillerais.
Les remasterisations ?
Toi, c'est Shadow et Ico.
Moi, je conseillerais par exemple Final Fantasy Tactics War of the Lions sur PSP. PSP qui a été. Alors, il y a des petits bonus cinématiques. Ils ont créé des nouvelles cinématiques avec un effet crayonné très joli. Et remasteriser tout le truc, et c'est un de mes jeux favoris ever, donc voilà.
D'accord. Julo, en attendant Shenmue, il y a la rumeur maintenant de la alors ça c'est intéressant, le jeu, la remasterisation de Shenmue serait finie depuis plus d'un an, c'est ça?
Tout à fait. Et qu'est-ce c'est ce qui une fois de plus ouvre les portes de l'espoir dans le cœur des
parlé.
Fans.
Il vous en a pas parlé à Toulouse.
Enfin, de l'espoir à la fois, si ça fait un an
non,
qu'il
alors
est pas sorti.
À vrai dire,
c'est encore un espoir maudit, hein, j'ai l'impression.
Non, moi j'en avais entendu parler déjà il y a un an par quelqu'un qui avait approché Yu Suzuki.
Mm-hmm. Il l'a touché ou pas?
Je ne citerai pas. Il l'a touché en plein cœur, ouais, bien sûr. Et il avait parlé de ce apparemment de ce remake HD quoi pour le Xbox Live et compagnie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ils seraient prêts depuis un an et ils attendraient de savoir exactement quoi faire de cette série Shenmue chez Sega avant de dégainer.
Et les gars, faut y aller.
De mettre en place une stratégie, quoi. Okay. C'est ce qu'ils se disent.
Donc ça fait un an que le jeu il est fini, ils font. Ouais.
Non, mais en gros, ça veut dire est-ce qu'on va se faire le 3 un jour ou est-ce qu'on sort le truc comme ça, on s'en branle, etc.
Ils n'ont pas l'idée de comme stratégie de juste lancer les remakes pour voir quelle réception il y a.
C'est ça. Visiblement, ça fait pas partie de la stratégie, non.
Non, bon, bah, c'est bizarre.
Bon, je sais pas. Voilà.
Dans tous les cas, hormis celui-là,
moi je te dis, il y en a aucun qui me tente plus qu'un autre, quoi. Je sais pas.
Et donc Mimic, toi c'est
Metal Gear, mais parce que c'est Metal Gear, voilà, pas forcément pour la qualité de la chose, même si apparemment tu as dit que c'était très bien.
Ah oui, bah voilà. C'est pas...
Donc, j'ai une autre question, moi. Quel remake vous aimeriez avoir qui n'est pas déjà disponible?
Mais ça, on va le faire après.
Ça, c'est après.
Ça,
ouais.
C'est à la toute fin.
J'ai vu le
si tu grilles les cartes,
t'es trop puissant, mec. T'es trop puissant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'était normalement le mot de la fin. Mais on va le voir. On y arrive. On y arrive.
Arrêtez de spoiler tout le temps. Déjà.
J'ai spoilé un podcast.
D'abord, on va faire les portes.
En l'enregistrant en live. T'as vu, c'est fort.
D'abord, on va faire les remakes. Et puis après, on va faire les reboots. Donc, parmi les remakes, maintenant, même question. Même petit tour de canapé rouge. Tellement lol. Puisque je vous rappelle que c'est son vrai nom.
Remake, hein.
Plus beau, ouais.
Ouais. Ben moi j'aimerais bien. Bon, il y a Final Fantasy VI bien sûr qui me tient énormément à cœur.
Non, non.
Que j'aimerais.
Non. Remake. Oui. Oui. Remake. Non, alors qui, remake qui existe déjà.
Qui existe déjà. Ah, ouais, mais
t'es prêt
alors,
t'es
voilà,
ton remake
de Commando, Tomb Raider Anniversary.
Putain, t'as spoilé encore plus que moi.
Final Fantasy III sur DS.
Ouais. Alors attends, dans les remakes. Ah, ça c'est une bonne question.
Super Mario All Star. Tu peux passer ton tour temporairement?
Ouais, je vais passer mon tour temporairement le temps de regarder ton iPad.
Très bien. Chut. Alors, dans le versus,
moi
tu
je
ne
vais,
le verras pas.
Je vais passer temporairement mon tour le temps de regarder Plume qui regarde ton iPad.
Merde, vous êtes super les gars.
Moi je vais te donner un titre parce que j'ai pas envie de te laisser dans la panade comme ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire, mes amis. Bionic Commando Rearmed sur le Xbox Live que j'adore. Tout simplement, déjà par pure nostalgie, parce que Bionic Commando c'est un de mes jeux préférés quand j'étais gamin. Et parce que c'est un jeu super, hein. Je l'aimais pas pour rien. Ce remake a été tout simplement hallucinant de justement pour une fois, contrairement au remake HD, enfin au portage HD, on est là vraiment dans l'amour quoi du jeu original et voilà dans l'expression de cet amour à travers un travail méticuleux pour rendre un boulot juste génial quoi et donner à nouveau envie de jouer au jeu et tout. Donc vraiment Bionic Commando Rearmed c'est un super jeu du XBLA.
Je crois que j'avais aussi beaucoup aimé Final Fantasy 3 sur DS.
Et Final Fantasy 3 sur DS qui est mine de rien impressionnant parce que on parle tout le temps de se faire un peu arnaquer etc. Final Fantasy 3 il a pas été refait, donc comme sur PSP c'était très bien sur PSP parce qu'effectivement ils avaient refait les sprites et tout. Sur DS il est en 3D quoi, ils ont vraiment refait le jeu original, le Final Fantasy 3 en 3D. Et voilà quoi, ça remet vraiment complètement le jeu au goût du jour et puis ça permet de le découvrir aujourd'hui plus facilement que voilà, quand on est un jeune joueur et tout ça. Donc c'est vrai que ça aussi c'est des beaux boulots.
Mimic,
allô, je pense allô Anniversary, vraiment 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 bien pour le jeu à la base en fait, plus pour le que pour la prouesse, mais c'est vraiment ouais, c'est pour moi c'est un titre incontournable, c'est et voilà tout simplement quoi.
C'est ton remake.
Ouais, bah c'est surtout que je garde un putain de souvenir et surtout j'étais tellement déçu par ceux d'après que voilà. Ouais. Sauf t'as lu en tester récemment là, c'était lequel de le Reach, c'est ça?
Reach, le meilleur.
Reach, voilà, Reach était bien, je crois que Reach est très
bien. Ah, c'est le 2, oui,
voilà.
Très bien, oui.
Mais après enfin le 2, tout, moi ça m'avait pas super emballé quoi. J'ai eu une expérience
incroyable. Le 4, on remet dans le bon.
Alors Reach est bien, ah bon, vous êtes sûr? Ok, non, c'était pour être.
T'es chiant toi.
Voilà, non, je.
Non mais regarde, c'est un petit moment fouine.
Et bah tu sais quoi Plumeau, maintenant que tu as pu regarder sur mon iPad,
Secret of Monkey Island.
Putain, enculé ta race.
Eh ouais, t'es deg hein. Tu me traites de fouine,
mais
voilà,
il est chiant, il est super chiant.
Donc ouais ce truc, je trouve que l'esprit a été gardé dans le nouveau design, qu'il n'y a pas de fausses notes et que ça tue, voilà. Et c'est super bien d'avoir fait ça pour faire découvrir cette série de malades qui nous a tous, je pense, fait rêver dans les années 90, au début des années 90. Faire découvrir ça dans le courant des années 2000, franchement, c'est bien, c'est de la conservation de patrimoine.
Et on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des jeux où on peut switcher à tout moment entre la version initiale, originale, un peu pixelisée, mais qui a tant de charme, et la version légèrement remaniée.
Exactement.
Qui est jolie en plus. Hein.
Elle est super jolie.
Non, mais c'est super jolie.
Rahan.
Bah j'en ai plus.
Ah t'es dégueu.
Bah oui.
Ah t'es dégueu.
Bah, piquez-moi.
Rien, piquez-moi. Aucun.
Tu peux citer d'autres trucs du... Mine de rien, il y en a beaucoup sur le Xbox Live.
Oui.
Parce que c'est là que tout ce genre de remake est né. Et il y a aussi le R-Type. T'es pas fan de R-Type toi, non?
R-Type Dimensions.
Ouais, qui est impressionnant aussi, où tu peux passer de l'un à l'autre tout le temps.
C'est pas lui, pas le même Raon.
Il y a plusieurs Raon dont j'ai rêvé cette nuit.
Avec un autre Raon.
La Raon, je tends une perche, je peux en sortir. Non, non, merci. Non,
non je n'apprends pas. Il y a la scène ton bâton moisi, là. Je le prends.
Je prends pas ton truc pourri.
Merci, Julo. Bah, moi, je cite.
C'est pas moisi, hein.
J'en citerai deux, personnellement. Il y a le Tomb Raider Anniversary, qui était vraiment
celui-là.
Et qui allait un tout petit peu plus loin. Enfin, qui était un.
Surtout sur Wii, en fait.
Ouais, qui était vraiment pas mal.
Le concept, c'est qu'ils avaient repris le moteur de Crystal Dynamics pour l'appliquer sur les anciens jeux.
Bah voilà.
Et il y avait des petits pans d'histoire en plus.
Il avait inséré la lampe torche. Ouais.
Mais globalement, c'était le même. Hein. C'était le même level design, même énigmes, même machin.
Ouais, enfin, avec vraiment des pans. Tu commençais le jeu, par exemple, pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que
oui,
le
jeu commence
devant la porte et voilà, tu rentres à l'intérieur.
Effectivement, là, il y a une petite séquence avant.
Y aller, etc.
Ouais. Même genre de remake que Resident Evil, en fait. Rebirth. C'est un peu ça. C'est la
un vrai remake.
Tout à fait. Donc, Resident Evil Rebirth, entre guillemets, sur GameCube, qui est pour moi l'un des tout meilleurs Resident Evil de toute la série.
Mais c'est ton le meilleur pour toi.
Je crois que j'avais dit que c'était mon préféré. Ouais,
t'as dû dire ça un jour.
C'est dans une autre vie, ou dans un autre podcast.
C'était pas le même Julien, c'est parce qu'on en a plusieurs.
Non, c'est ça.
Pour créer un peu de
Julien, ça se duplique assez facilement.
Moi, j'ai beaucoup aimé Twin Snake.
Ouais.
Et donc voilà. C'est pour ça que j'étais sûr que ça allait.
Ah merde,
j'ai beaucoup aimé Twin Snake. Regarde, ah ouais, oh putain, ouais.
Et ben fais un petit tour sur internet, va taper des recherches Google, genre les meilleurs remakes du monde, etc. Twin Snake revient hyper souvent.
Bah, il y en a pas tant que ça en fait des remakes, donc je peux comprendre, mais moi je le trouve vraiment trop abusé, quoi.
C'est le côté what the fuck qui est choquant.
Les cinématiques reprises par Kitamura,
où les mecs sont sur les missiles et tout. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais il y a un côté un peu démentiel que j'ai trouvé bien.
Et je rappelle que, bon, Hideo Kojima a un peu désavoué après coup, certes, mais le remake qui était réalisé
mais
par.
Mais quel tafiole celui-là,
Heureusement, le jeu est sorti, donc c'est bon.
Et bon, c'est ça, il l'a pas super. J'ai été un peu déçu aussi. Enfin, je trouve justement c'était un peu Anniversary au Rebirth pour moi, apporter un tout petit supplément d'âme. Et sur un jeu comme Metal Gear qui généralement foisonne de petites trouvailles, de clins d'œil, de machin, là, hormis avoir mis un graphisme un peu plus beau, un gameplay affiné avec celui de MGS2, il n'y a rien.
Ah si, il y a un what the fuck.
C'est ça,
le côté un petit supplément d'âme.
Ouais, mais
ça change le ton.
En plus, B-movie qui ne l'aide déjà à la base, en fait, quand on regarde bien.
Bon, il n'est pas tant que ça.
Mais non, mais
quand même.
Par rapport à la version Twin Snake.
Ouais.
Bon,
enfin. Allez, on va passer à nos amis les reboots qui s'intensifient. Alors par exemple, on pourrait penser à Metroid avec les Metroid Prime qui sont un reboot.
Alors excellent reboot, bien sûr.
Des Metroid. On pourrait penser à Prince of Persia Sands of Time.
Carrément.
Reboot.
En fait, chaque nouvelle trilogie.
Sands of Time, c'est une.
Enfin, sauf quand. Non, Sands of Time, c'est fantastique.
Mais si on s'adapte sur tous les jeux.
T'as pas aimé Mimic? Ah si,
j'ai adoré ça, mais je préférais. Enfin, il y a vraiment une magie qui se dégage de trucs. On dirait une œuvre Disney. Enfin,
c'est le tout premier, oui.
C'est incroyable, incroyable.
Parce que c'est vrai que dès le deuxième et puis le troisième aussi, ils ont changé le ton et le.
Vachement plus sérieux.
C'est l'équipe d'Assassin's Creed. Ce qui est bien, moi, je. Oui, c'est Patrice Désilets et.
Enfin, maintenant, Patrice Désilets n'y est plus, mais c'est la core team qui maintenant aujourd'hui travaille sur le 3.
Ouais, enfin, elle s'est considérablement élargie et elle a changé beaucoup. Mais à l'époque, effectivement, c'est eux qui ont fait le premier Assassin, en fait.
Ouais.
C'est pas Patrice Désilets. Enfin, il bossait dessus, mais c'était.
C'était Yannis Mala, oui.
Voilà, Yannis Mala qui vraiment gérait.
Et qui est aujourd'hui à la tête du studio canadien de Montréal.
Mais on est passé très vite du coup sur Metroid. Metroid Prime, franchement, c'est une tuerie, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont. C'est le reboot intégral parce que le premier est un
changement de perspective.
Là, on devient FPS.
De gameplay,
voilà, on profite de la.
Ça faisait peur aux fans de la série parce que, quand même.
Ah ouais, carrément. Mais pourtant, c'est d'une fidélité incroyable à l'ambiance, l'univers, le style de jeu et tout.
En fait, c'est la bonne méthode.
C'est complètement revu et on te dit putain, mais voilà, tu te rappelles de Metroid. Bah là, je te fais revivre ça, mais t'es dans le casque et tout. Et en plus, c'était les premières heures de la Wii et donc de la Wiimote, pleine de promesses et tout ça. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est un des rares jeux qui m'a vraiment fait kiffer avec une Wiimote. Par la Wiimote, je veux dire.
Et vous avez pas l'impression que Retro Studio.
C'est sur GameCube à la base.
C'est
GameCube. Ah merde, oui, c'est vrai.
Ah bah exactement.
Moi, je l'ai redécouvert sur.
Oh merde.
Avec Metroid Prime Trilogy.
C'était le Trilogy, effectivement. C'est un remake, c'est parfait.
Et bah voilà.
C'est une réédition.
C'est vraiment un jeu qui a permis à Retro Studio de devenir un peu le Rare que Nintendo avait perdu. C'est devenu un peu nouveau Rare, mais qui a pris de.
Ils devraient les mettre sur un Zelda ou un truc comme ça.
Mais dans l'absolu,
par exemple,
ils étaient même. C'est même mieux que Rare parce qu'on leur confie des grosses licences qu'ils arrivent à transcender et à renouveler, ce qui n'était pas le cas de Rare. Rare faisait ses propres jeux.
Donc, Donkey Kong, c'est une nouvelle licence quand même.
Oui, c'est.
Enfin, c'est une nouvelle. Je veux dire, c'est une reprise d'une licence historique de Nintendo.
J'ai plus Banjo et Kazooie, etc. à cette époque-là dans la tête. Mais. Ouais.
Donc Metroid, on a parlé de Prince of Persia, il va avoir le reboot de Tomb Raider qui, même chez vous, les game bloggers visiblement, puisqu'on a fait plusieurs sondages, apparaît très très haut, fait partie des jeux les plus attendus de l'année, même s'il est possible qu'il glisse à 2013. En tout cas, c'est un jeu très attendu.
Mais là finalement, justement, sur ce Tomb Raider là, qu'est-ce qui reste finalement de ce qu'on connaissait de Tomb Raider, mis à part les
Lara Croft.
Non mais d'accord, c'est ça que je te demande en fait.
T'as même pas eu le temps de lui laisser finir sa phrase.
Non, parce que je suis un con, c'est pour ça.
Non mais voilà, t'as effectivement Lara Croft, mais finalement, que reste-t-il d'autre en termes de gameplay, etc.
En termes de gameplay, il y aura de l'action.
Tout ce qu'on a vu ne ressemble absolument pas à ce que j'ai
connu. Mais c'est pour ça que c'est un vrai reboot. C'est-à-dire qu'on reprend l'esprit exploration, découverte, on le matine d'un nouveau truc qui est la survie, etc. On prend le personnage et on réinvente une nouvelle série, une nouvelle saga qui garde juste vraiment des bribes d'ADN originaux, des bribes, une bribe originale. Et on refait.
Ouais, mais pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a que l'héroïne, tu vois, et que tout est vraiment réinventé.
Après,
il y a beaucoup de choses à découvrir. Évidemment,
mais il t'a cité plein d'éléments qui sont des éléments de Tomb Raider.
Il y a
pas que l'héroïne.
Il y a le côté aventure. Oui, on est vraiment d'accord. C'est bien mignon, mais bon, c'est pas un argument non plus. Faut en descendre.
L'exploration, la découverte, etc. Si, c'est des éléments importants.
Mais ça, tu l'as dans plein d'autres jeux, tu vois.
Par exemple, dans Shadow of the Colossus, c'est le voyage.
Je les vois mal faire un jeu de Scrabble avec Lara, qui, enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire.
Pour moi, il reste que Lara. Non, mais ça a dû sortir à Scrabble Tomb Raider d'ailleurs.
Non, mais c'est un argumentaire aussi.
C'est justement un reboot, tu prends certains éléments, t'en jettes d'autres, t'en remets de nouveaux, etc.
Oui, mais l'aventure, c'est un élément tellement commun que pour moi, je vois que Lara finalement.
L'exploration. Le mystère.
Ah, pas mal.
Non, mais quand même, pour l'avoir vu un petit peu.
L'aventure et l'exploration à la Tomb Raider.
Merci. Mais si tu veux, il y a plus. Parce que toi, tu ne vois que le gameplay. Et donc, les sauts au millimètre.
Pour l'avoir vu un petit peu,
j'aime bien toucher aussi.
Et toi,
d'accord. Au revoir.
Attends, à longueur de podcast, ça commence à bien faire maintenant.
Et merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Donne-moi l'iPad pour la suite là.
Vous avez un autre jeu à citer?
Ouais, le reboot de Castlevania, hein, tout bêtement.
Ah bah voilà.
Ah oui, mais alors parle-en nous plus, moi, un petit peu là.
Le reboot de Julien C, il est où là?
Ah oui, il faudrait
rebooter Julien C.
On reboot Julien C.
Alors là, Poufy.
Non, rendez-moi le celui d'avant.
Et il vient. Et il vient. Alors quelle est la suite?
La suite.
Oui.
Les petits mots sur les 10 mecs. Non, ça c'est déjà fait.
C'est déjà fait ça. Ça fait plaisir parce que pour une fois, t'es obligé de suivre un podcast au lieu de jouer derrière la caméra.
Ok. C'est n'importe quoi. Non, mais parle dans le micro, on t'entend pas.
On est paumé sans Julien là. Mais tu voulais dire un truc,
vois, c'est,
avant,
c'est à cause de trucs comme ça. Après, on dit c'était mieux avant.
Et alors, Castlevania, Lord of Shadow, c'était un bon reboot ou pas alors?
Ah bah, clairement. Clairement, c'est même le meilleur qu'on puisse.
Est-ce que c'est un reboot sans se poser la question?
Non, moi j'avais dit c'est le meilleur.
Je veux bien considérer que c'est un reboot, hein, mais il s'inscrit dans la timeline, mon cher.
Il s'inscrit dans aucune timeline, donc on va pas refaire le débat.
Tout ça parce qu'il ragachi.
Non, parce que c'est comme ça.
Igarashi,
tu regardes les timelines, tu dis c'est pas possible, ça ne correspond pas. Et puis même la fin.
On en reparlera hors micro pour pas emmerder tout le monde et pour pas spoiler.
Ouais, t'as raison.
Mais en tout cas, un jeu extraordinaire qui revoit absolument tout le concept de Castlevania. Moi, j'avais adoré ce jeu.
Pas tout le concept complètement. Il renoue en fait avec l'époque pré-Metroidvania, le côté action.
Ça, mais après, au niveau de l'univers et tout, il a ajouté plein de trucs, hein, et plein de références.
Il a pris beaucoup de
labyrinthe de Pan,
exactement, de la mythologie, on va dire.
Salut Poufy.
Bon, vous tournez en rond, les gars.
Européenne.
Tu vas tourner là.
Non, pas vraiment.
C'est parce qu'il est en
rond. Ça plaisait bien sans toi, en fait.
Très. Oh, au revoir. La blague qui ne s'arrête jamais.
Mais non, c'est un vrai God of War-like de fou qui a été
vachement profond en termes de gameplay, malgré ce qu'on peut penser au départ.
Avec une fin juste.
Et une fin juste. Génial.
Incroyable, qui nous permet ça depuis Usual Suspect.
Qui nous permet de. Une fin.
Attends, c'est quoi la fin du Usual Suspect déjà?
Non, en fait, on n'a pas vu ça depuis Entretien avec un vampire. Voilà, ça correspond plus.
Ouais, bah,
comme
c'est
la
un
fin
peu
de ce podcast finalement.
Pleased to meet you.
Incroyablement mythique. Je crois qu'on peut féliciter Poufy pour son intervention. Je crois véritablement.
Tu sais que j'ai vraiment cru que c'était toi à un moment.
Mais moi aussi. J'étais bien derrière la caméra et tout. J'ai vu que Poufy masterisait ça. On va réfléchir à l'idée.
Et alors c'est bien d'être Poufy.
Mais où est-ce que t'as été? T'as des trucs chelous.
Au Bahamas.
Il a pas répondu, t'as vu.
Au Bahamas. J'ai bien. Et donc, on l'a spoilé tout à l'heure, mais pour conclure ce podcast, la question fatidique, mesdames et messieurs.
Mais attends, mais tu reviens, on n'a même pas fini
monsieur,
avec Harry
Potter. Monsieur, moi.
Mais si, on en a parlé 10 minutes avant.
En fait,
tu te rappelles pas, on a eu un bug.
Je peux juste signaler un reboot. Qu'on peut considérer comme un reboot. Et d'ailleurs, je suis pas content, tu le zappes alors que je l'ai marqué. Pac-Man Championship Edition.
Oh,
ah si, on peut considérer que c'est un reboot de Pac-Man et c'est mortel. Okay. C'est un des meilleurs jeux du
D'accord.
XBLA.
Salut.
On va
mais alors attends, mais dans ces cas-là, on peut considérer que le dernier Gran Turismo, c'est le reboot du Gran Turismo d'avant.
Oh non.
Ah bah non, pas du tout.
Ça y est.
Mais non, mais Pac-Man, il y a un original qui a été décliné, etc. Et là, c'est un vrai nouveau jeu, un vrai nouveau concept de Pac-Man en multijoueur.
C'est vrai que toutes les cartes, les
avec,
pas nouvelles.
Avec un complètement une nouvelle version un peu sous-acide des graphismes.
Mais moi,
etc.
je vous pose quand même la question, est-ce que dans les jeux de sport, de FIFA 13 à FIFA 12,
c'est une très bonne question.
Est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est quoi finalement? C'est des remasterisations, c'est des reboots, des rééditions?
C'est des arnaques.
C'est des arnaques?
Bah, pas tous.
Ça dépend. Il y a eu de l'arnaque. Parce que il y a eu beaucoup d'arnaques dans ce domaine.
Quelle est la différence entre une suite?
Mise à jour, non mais il a raison, c'est mise à jour.
Voilà. Il y a un changement de gameplay aussi, enfin voilà, simplement.
Bah pour FIFA 12 par exemple, avec son nouveau système d'impact, etc., oui, il y a des choses en plus. Mais...
Bah, des fois, tous les 2-3 ans, tu as souvent un changement de gameplay fatidique, j'ai envie de dire, enfin important, et qui à ce moment-là peut prendre le nom d'une suite, je pense. Après, c'est des mises à jour de nom de
joueur.
C'est
des DLC déguisés, quoi.
Mais ça dépend des fois, non, je répète, si vraiment le système de jeu n'est pas le même du tout, comme ils le font tous les 2-3 ans, il y a un vrai changement.
Tous les 2-3 ans.
Mais en fait, moi.
Donc il y a une arnaque entre temps, je suis d'accord avec toi.
Dans la pratique des FIFA, là, je les suspecte quand même de.
Suspecte
d'avoir des idées fortes.
Et de les garder.
Et de les garder, en garder une à chaque fois à laquelle ils mêlent des petites idées en plus. Et en fait, sur chaque épisode, ils essaient de se garder un truc et qui pourrait travailler finalement sur plein d'autres choses, etc. Mais qui, c'est, comme c'est des éléments marketing aussi super importants pour imposer quand même un jeu chaque année, faire racheter à chaque fois aux joueurs un jeu chaque année.
Mais c'est un
peu
comme toi. Je les
suspecte de travailler comme ça en fait.
Toi, t'es pareil, hein, tu nous sors des idées que t'avais déjà dans ta tête depuis longtemps pour Versus.
Ah, moi, je suis un génie, mec. Laisse tomber. Donc, tu sais, si tu savais le nombre d'idées. Ouais.
C'est toujours les mêmes. Shenmue, Bardani. Bon alors c'est bardé, c'est la conclusion. C'est le remake dont vous rêvez, Mimic. Ce serait lequel? Ce jeu incroyable que t'auras envie de revoir aujourd'hui remaké.
Oh là, t'es dur là. D'un coup là comme ça,
j'ai une idée.
30 minutes pour y réfléchir. Avec la
Moi je sais. Soul River.
En plus, a priori, il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait peut-être arriver.
Oui, c'est pour ça.
Alors, remake ou remasterisation, ça c'est bon, c'est pas
trop. Je lis deux, je prends.
Ok. Plumeau.
Alors, moi je t'avais dit, il y a genre un quart d'heure, voilà, je pensais à Final Fantasy VI en premier, mais en fait, c'est Suikoden 2 que je voudrais voir refait de fond en comble.
Ouais, c'est vrai qu'il était.
Bah, c'est. Assez, oui, assez fou. Il est fantastique, il est génial, il est tout ce que vous voulez. Mais refaire ce juste jeu.
Il est pourri
jeu,
alors aussi.
Hein ?
Il est pourri aussi alors.
Non.
Suikoden 2, il est extraordinaire. Mais la série en elle-même, enfin le 1 et le 2, les deux premiers sont fous.
Mais le 3 est très bien aussi. Hein. Le 4 aussi. Le 5.
Non. Le virage 3D a eu quand même.
Le 3 était bien, hein. Franchement.
Grandia aussi, putain, Grandia.
Julo.
Alors très original, Final Fantasy VII, comme tout le monde, c'est le remake. Moi, enfin.
Mais à mon avis, c'est l'assurance vie de Square Enix. C'est-à-dire que le jour où on va avoir le remake de Final Fantasy VII, c'est un mauvais signe pour Square Enix. C'est-à-dire que c'est leur cash machine ultime et qu'ils le balanceront au moment où ils.
Simplement que s'ils attendent trop, les joueurs ont vieilli, machin. Je sais pas. Il y a un moment quand même.
Ils te ressortent des remasterisations ou des rééditions tous les ans. Il y a toujours un FF7 qui arrive d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais même Crisis Core FF7, les choses comme ça, oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer que c'est un reboot de FF7 Crisis Core?
Non, pas du tout.
Non, c'est une histoire.
C'est une préquelle, préquelle action.
Non, c'est pas un reboot.
Je sais pas.
Ah bah non. Ah bah, on t'a répondu.
J'ai juste envie de foutre
Mimic,
un peu la
Mimic, est-ce que t'as trouvé ton remake de rêve?
Plein, mais je pense à Grisor en fait.
Tu penses à Grisor?
Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense à Grisor. Je pourrais pas te répondre.
Tu jouais sur quoi?
Amstrad. Je crois que c'était pas j'ai pas joué.
Moi je l'avais sur Amstrad 464.
C'est pas vu sur Super NES? Non, Amstrad. C'était Amstrad, ouais, t'as raison, c'était Amstrad.
Putain, je pense à
Game Over aussi, dans le même genre. Et je me rappelle que c'était Amstrad. Je sais pas si vous avez joué à ce shoot.
Game Over,
c'était un jeu super avec un super design.
Tiens, tu putain de nom de jeu.
Mais. Non, tu chercheras Game Over. Mais Grisor, ouais, je garde un souvenir un peu pesant. Mais tu vois, je l'avais dans la tête sur Super NES. Mais il a pas déjà refait ce jeu?
Non, il y a eu un volet, je crois, sur PS2, un truc obscur qui a été refait avec les mêmes.
Ça peut être pourri, hein, bref, en tout cas, ouais, je garde un souvenir impérissable de jeu. Alors, je sais pas si ça se justifierait donc on le refasse, mais le souvenir est vraiment incroyable pour moi. Donc, si je pouvais revivre un truc similaire, je serais très content.
Dans la même catégorie du truc que j'aimerais bien revivre, ils ont déjà essayé de le faire. En plus, il y a déjà eu des remakes, ils étaient tous ratés. C'est Speedball 2.
Speedball,
genre tu vois le sport violent futuriste machin, je pense que merde, il y a moyen de reprendre ce concept à l'époque avec les rosters où t'achetais tes joueurs stars, ouais, et tout, ça, tu construis ton équipe. C'était mortel.
Barbarian aussi.
Il y a eu un remake de Kiloton, mais qui était pas terrible.
Il y en a eu un, sur iOS.
Qui a pas été super là, mais bon voilà, Barbarian, ouais, je sais pas, je me rappelle d'un jeu Bruce Lee aussi sur Amstrad qui était.
Defender of the Crown aussi avait été refait il y a quelques années.
Oui.
Il y a un remake de Defender of the Crown.
Ah oui, il y a un remake de Defender of the Crown. Mais,
Sur quoi, sur PC?
Non, mais j'étais chez PAD à ce moment-là. C'était en 2003 ou en 2004.
Ah, il est sorti sur DS.
Non, pas sur DS. Non,
si,
non,
si,
non,
si,
c'était
je
sur console de salon. Oh. C'était pas génial, mais bon. Après, voilà, c'était Defender of the Crown, alors forcément.
Mais tu sais, il y a plein de jeux comme ça qui vont ressortir sur iPad dans une forme ou sur une autre.
C'est vrai, tu penses que Moppity Island aussi ressortira sur iPad?
Moppity Island, ouais. Je sais pas, ça dépend encore de qui a les droits. Hein. C'est toujours pareil un peu avec les vieux jeux.
Mais non, et sur iPad, c'est ce qu'il faut faire. Shufflepunk Café.
Ouais, oui, bien sûr.
Ah, bah, Shufflepunk Café avec deux iPads comme ça.
Sur... Voilà. Ça, mais oui, bien sûr. Ça, c'est le truc parfait. Ouais.
Évidemment.
Comme ça. Mais je vous ai dit que j'avais des idées.
Thème Hospital aussi, je repense à ça. Ça m'avait bien plu aussi, Thème Hospital. C'était super aussi. Ça me revient comme ça là.
Ah oh, putain, Dungeon Keeper aussi, bah, putain, bordel. Voilà, ouais. Non, mais en fait, il y en a une tonne quoi.
Ouais.
C'est-à-dire quand tu commences
tout
à.
Tout est possible en fait, dès que tu commences à.
Et toi, Julien, quel serait ton remake?
Bah, moi je pensais à Final Fantasy VI et puis j'ai réfléchissé en vous écoutant et en fait, j'ai envie de garder le souvenir original. Je me dis.
Mais ça, c'est un truc dont on a pas
parlé. Imaginé en 3D, etc. Mais et oui. Tout, j'ai pas très envie en fait.
À moi aussi. À moi à fond.
J'aurais peur de, tu vois, de pas retrouver.
Moi, j'aurais peur que ce soit Nomura qui s'occupe de tout. Et là, effectivement, je serais.
C'est pas très envie. Parce que sinon, je dirais Secret of Mana, par exemple, qui pour moi est un jeu incroyable, etc. Mais je sais pas
ça,
si
en
j'ai
fait,
pas envie de garder
on a,
le souvenir
on a l'impression
de le revoir
que...
aujourd'hui, moderne.
Mais voilà, effectivement, il a raison de le dire, je vois, c'est un truc qu'on n'a pas abordé, mais en fait, finalement, tu peux pas forcément retrouver les mêmes sensations.
Ah
en
bah
fait.
Non, c'est il faut peut-être voilà, même pas, tu vois.
Sinon c'est pas vraiment...
Déterrer les
mains, parfois. Tu retrouves jamais tes sensations, en fait. Et je pense que c'est le côté déceptif de n'importe quel remake et n'importe quelle réédition.
Pas toujours.
Sauf quand t'as pas joué à la base. C'est-à-dire que quand c'est le côté
patrimoine, même en ayant joué à la
t'es jeune, t'as pas joué à ce jeu de papa, etc. Et papa, il te saoule avec, bah, tu t'y joues. Mm-hmm. Mais
et
quand
tu comprends pas pourquoi il a aimé à l'époque.
Voilà, peut-être. Hein. Mais c'est encore pire quand c'est papa qui rejoue à son jeu dans son enfance. Parce que bah, finalement, tu peux que être déçu parce que tu revivras jamais la magie de l'instant de l'époque.
C'est tes enfants qui te disent ça en ce moment ou pas?
Peut-être pas exactement, mais...
Non, c'est pas du vécu, mais quand je dis le jeu de papa, c'est ça. Enfin, on est en train de changer de génération, là, les gars. On a tous 30 piges.
On a tous des
enfants. On jouait à 8 ans.
Non. C'est la magie de la première fois, tout simplement. La première fois où il passe un truc. Ça marche pour plein d'autres sujets.
J'étais enfant ou
ado.
On
pourrait aborder dans d'autres podcasts. Enfin, voilà,
est-ce que c'est des reboots dans ce genre de sujet ou des remakes
Bon, tu vois. Bon, je suis parti sur un truc qui n'a rien à voir. Je pense que au sexe, comme d'habitude.
Bah, moi aussi,
je vous laisse
aussi,
justement.
On a bien vu que vous n'étiez pas compris.
Non, non, si, justement, on s'est compris.
Il m'a fait peur, c'est pour ça.
T'as pas voulu aller au bout de l'idée.
Non, je suis plus timide qu'il n'y paraît en fait.
Non, mais est-ce que vous avez déjà.
Il va jamais au bout. Hein.
Est-ce que vous avez déjà été. Je suis désolé de revenir au thème, hein, excusez-moi, les amis. Donc, sur la nostalgie là. C'est vrai. Est-ce que vous avez. Finalement, déjà été vraiment ravi de rejouer un jeu, quoi.
Oui, bah moi, ça me l'a fait avec Another World.
J'ai vraiment retrouvé les
sensations de l'époque.
Ouais, pareil. Hein,
mais Ico, c'est trop récent.
Another World.
C'est le remake d'un jeu de la génération juste avant. Oui, tu vois, c'est pas pareil.
Mais quand FF6, je me le refais régulièrement.
Lequel? C'est vrai, tu le refais régulièrement.
Ah ouais, je le refais régulièrement parce que j'ai besoin de le redécouvrir parce que je me dis j'ai oublié des trucs.
FF Tactics aussi.
FF Tactics aussi, je me suis refait il y a pas très longtemps. Grandia, je me suis refait il y a pas très longtemps.
Grandia, tu l'as refait chaque
fois.
Et... Mario, j'ai fait Super Mario Land là sur Game Boy, la toute première en sortant ma vieille Game Boy qu'un lecteur m'avait gentiment offert. Et j'ai repris un plaisir fou mais à la fois aussi un peu de souvenirs et de souvenirs de l'époque et de m'halluciner en me disant mais putain mais il voyait rien sur cette machine en fait et c'était sacrément pas beau mais pourtant
oui,
qu'est-ce que j'ai kiffé. Donc là c'est purement la nostalgie qui m'a fait apprécier mon Xème run sur le jeu quoi.
Ouais, ouais. C'est pareil, moi j'étais très très heureux de rejouer à Goemon ou à Actraiser, etc. sur la Virtual Console, mais je les ai pas refinis quoi. Je les ai pas.
Voilà, je dirais qu'effectivement on va.
Et toi, ton Super Mario Land, t'as pas dû y jouer plus d'une heure?
Si, moi si. Je l'ai refini parce que.
Ah, tu l'as refini entièrement?
Mais il est pas très long en fait. Et c'est là où tu te rends compte justement la fameuse
question est-ce que
les
jeux étaient
plus longs, machin et tout. Tu te rends compte en fait pas tant que ça.
On se fera le thème d'un Versus.
Ah bon? On devrait en parler dans un Versus. Je te défie.
Très bonne idée, tiens, on va le faire! En tout cas, c'est sur ces embruns nostalgiques que...
Et je peux encore... Non, je déconne.
Oui. C'est bon. Que ce podcast va refermer ses portes aujourd'hui, bien évidemment. Vous pouvez le retrouver ou le découvrir en vidéo aussi, bien sûr, grâce à l'abonnement premium. Et il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Pas mal de choses à découvrir en vidéo. On se donne rendez-vous forcément la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec un
aux
nouveau
alentours
thème.
De mercredi.
C'est fort probable. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Et je vous laisse avec une dernière question. Est-ce que Gameblog est un reboot de Joypad? Vous avez une semaine pour plancher là-dessus. À bientôt, ciao.
Ouh, ouais. Vous nous ferez une copie double.
Waouh.